Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal présenté par Grace Hamzati Massandier.
Décès ce lundi du pape François, le gouvernement congolais exprime sa consternation tout en saluant les combats menés par le Saint-Père, notamment pour la paix en République démocratique du Congo. Vous entendrez Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, dans quelques instants. La société civile de Mavivi dans les territoires de Béni au Nord qui vous salue les réalisations de la MONUSCO au profit de la communauté locale. En effet, la mission onusienne a lancé vendredi dernier des travaux de réhabilitation des 6 salles de classe de l'Institut Mabasele d'Engite Mavivi. Des détails dans ce journal. Notre invité est le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO. Monseigneur Donatien Chaud les revient sur le décès du pape François en expliquant la suite des événements pour sa succession. Bonjour, vous le savez certainement, le pape François s'est éteint hier lundi 21 avril à l'âge de 88 ans. Les hommages fusent de partout dans le monde. Le gouvernement congolais s'est dit consterné par la mort du chef de l'église catholique romaine. Son porte-parole salue les combats menés par l'illustre disparu en faveur de la RDC. Patrick Mouyaya, joint par Jean Gandou.
Bon, écoutez, c'est une grosse perte pour l'église catholique, les chrétiens du monde entier, mais c'est particulièrement aussi une grosse perte pour la République démocratique du Congo, parce que nous avons eu l'occasion de le recevoir pendant plusieurs jours en RDC en début de d'année 2023. Et c'est une visite qui a été à plusieurs titres historique et régulièrement, ses prises de parole, le pape a toujours sensibilisé sur la situation en République démocratique du Congo et pour le retour de la paix. Et je crois que de sa visite, il y a une expression qu'on a retenue ici, c'est qu'il faut ôter vos mains de la République démocratique du Congo. Je pense que ça, c'était un des moments le plus fort de son passage ici au cours de sa visite pastorale.
Et à Bounia, dans la province de l'Ituri, les avis sont partagés après la mort du souverain pontife. Les uns estiment qu'il était un homme épris de paix et avocat des personnes vulnérables. Ils saluent son souhait ardent de voir l'Est de la RDC retrouver un jour la paix. D'autres, en revanche, pensent que la RDC n'a rien bénéficié de son passage à la tête de l'Église catholique. Écoutons les avis des uns et des autres au micro de Jean-Claude Lokidile.
J'ai été plus frappé par sa proximité envers les autres personnes, et spécialement les personnes vulnérables et marginalisées.
Beaucoup de bonnes choses que le pape a fait pour notre église. Le pape a refusé d'abord le mariage homosexuel, il y a tas de choses.
Bien sûr, je ne suis pas catholique, mais je suis chrétien comme tous les autres chrétiens. Ce qui me retenait souvent, c'est qu'il voulait la stabilité dans le monde. C'est pour ça que beaucoup, souvent, il parlait de la paix pour l'Est de la République démocratique du Congo.
C'est un homme très conciliant et qui évitait le plus possible tout ce qu'on voit un tout petit peu dans les chefs de certains religieux. C'est un conciliateur qui voudrait faire avancer la foi de tout chrétien, même des non-chrétiens. Quand on voit l'approche aujourd'hui de l'ECC et de la CENCO en RDC, je pense que c'est un tout petit peu de son école, où vous voyez l'église protestante et l'église catholique qui se concilient pour la paix en RDC.
Malheureusement, j'ai pas vécu son influence. Hein. Il est arrivé chez nous demandant aux politiciens de retirer leurs mains de la RDC. Et finalement, les mains ne sont toujours pas retirées. Je pensais qu'il était grand politiquement, je réalise qu'il est comme tout autre politique.
Mais qui était le pape François? Sa biographie avec vous, Christian Mapendano.
De son vrai nom, Giorgio Mario Bergoglio, le pape François est né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, en Argentine. Il entre dans la compagnie des jésuites en 1958 et est ordonné prêtre en 1969. En 2001, il est créé cardinal par le pape Jean-Paul II. Le 13 mars 2013, après la démission de Benoît XVI, il est élu 266e pape de l'Église catholique, devenant le premier pape jésuite et le premier d'Amérique latine. latine qui prend le nom de François en hommage à Saint François d'Assise. Il se distingue par son mode de vie simple et son engagement auprès des pauvres. Sa sainteté, le pape François, est un leader qui nous inspire tous à travers son exemple d'humilité et son engagement pour la justice sociale, avait déclaré Barack Obama en septembre 2015 lors de la cérémonie d'accueil du souverain pontife à la Maison Blanche. Et pour Angela Merkel, ancienne chancelière allemande, il était une voix importante dans le monde d'aujourd'hui, nous rappelons sans cesse notre responsabilité envers le plus faible.
Comme dit au sommaire, dans le territoire des Bénin Nord Kivu, les réalisations de la MONUSCO sont multiples et reconnues par la population. C'est la société civile de la localité de Mavivi, à une dizaine de kilomètres du centre-ville de Beni, qui l'a dit vendredi dernier. C'était à l'occasion du lancement par la MONUSCO des travaux de réhabilitation des 6 salles de classe de l'Institut Mabasele de Ngite Mavivi. La société civile locale salue cet énième appui de la mission onusienne. Luc Matabishi Belundu, le président de cette structure citoyenne, invite la communauté à privilégier la cohabitation pacifique avec la MONUSCO. Il demande également aux autorités locales de vulgariser auprès des habitants les différentes réalisations de la MONUSCO dans la région de Beni. Luc Matabishi Belundu, au micro de Guylaine Kassassia.
La MONUSCO nous a déjà fait beaucoup de choses ici au niveau de Mavivi. À l'hôpital de référence de Mavivi, ils nous ont déjà fait de lits. Il y a aussi de l'ambe, une maison là où les mamans restent en train de s'asseoir, les mamans enceintes. Ils nous ont déjà aussi donné le médicament au niveau de l'hôpital de référence de Mavivi. La MONUSCO nous a déjà donné de l'ambe à partir d'un cas de Giscanquite. La MONUSCO aussi nous a déjà construit un bureau de l'EPFORAN, enseigné les enseignants comment utiliser l'ordinateur. La MONUSCO nous aide aussi beaucoup pour l'évaluation de la situation sécuritaire dans notre milieu de Mavivi. La MONUSCO, ce sont nos frères. Lorsque vous voyez la MONUSCO telle part, dites que je suis à côté de mon frère. Ne les jetez pas des cailloux parce que ce sont nos frères. Ils sont là pour nous aider, pour voir comment nous pouvons évoluer aussi. Nous, comme société civile et la communauté qui sont au courant de tout ce que la MONUSCO fait, il faut que nous puissions chaque fois vulgariser le message de tout ce que la MONUSCO sont en train de faire pour nous, la communauté de Mavivi et ailleurs. Aussi.
Dans la même région, à Béniville, un incendie d'origine inconnue a été maîtrisé dans la nuit de dimanche à lundi grâce à l'intervention rapide de la MONUSCO. Le feu s'est déclaré dans le quartier Mabakanga où l'on déplore d'importants dégâts matériels. Face à ces incendies devenus récurrents, la protection civile exhorte une fois de plus la population à se faire former sur les mesures préventives en matière de lutte contre le feu. Marc Marofimbo nous fait le point.
Cet incendie dont l'origine reste encore inconnue s'est déclaré dans un garage situé à proximité d'une station-service. Les efforts des riverains n'ont pas suffi. Il a fallu l'intervention de la MONUSCO pour maîtriser les flammes, comme en témoigne Joël Métia, présent sur le lieu du drame.
Grâce à l'appui de la MONUSCO, avec l'incendie, l'incendie ne s'épargne pas partout ici dans notre quartier de Mabakanga. Nous disons merci à la MONUSCO pour l'intervention et nous voyons vraiment l'effort de la MONUSCO dans notre ville de Beni. Si la MONUSCO n'était pas là, on pourrait vraiment perdre beaucoup de choses ici à Ville de Beni.
La protection civile présente sur place a salué la rapidité de l'intervention. Son coordinateur régional insiste sur la nécessité de mieux outiller la population pour prévenir ce genre de catastrophes. Jean-Paul Capitula.
D'abord, c'est sensibiliser la communauté de savoir les dégâts des incendies. Sûrement qu'il y a eu une mauvaise manipulation des produits inflammables ou alors une mauvaise manipulation du courant électrique. Ce qui est important, c'est d'avoir cette connaissance de comment faire face à un feu et surtout éteindre le feu quand il est encore petit.
Signalons que des véhicules, tous les matériels se trouvent dans le garage ainsi que le bureau de l'association des transporteurs des matériaux de construction en ville de Beni ont été entièrement réduits en cendres. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Nous sommes au Maniema. La société civile Force Vive sous antenne de Basongue 1 à Samba alerte sur la paralysie des activités sanitaires dans la zone de santé de Samba. Abbé de Kazimoto Dallas illustre cette situation par le cas du centre de santé Bungongwe où il y a conflit du pouvoir créé selon lui par les autorités politico-administratives. Ces derniers demandent au gouverneur des provinces de se saisir du dossier avant que le pire n'arrive. Abbé de Kazimoto Dallas, joint par Florence Kizalonga.
La société civile condamne les grands désarrois orchestrés par les bureaux centrales de la zone de santé rurale de Samba au centre de santé Bungongwe, où le remplacement de M. Amissi Kiyombo comme IT, un remplacement de M. Alphonse Yangala, détenteur d'une commission collective signée par le gouverneur, entraîne la paralysie des activités sanitaires et les patients abandonnés suite à ces conflits de compétences préfèrent recourir aux charlatans pour des soins. Alors que le centre de santé Bungongwe regorge à son sein trois groupements, le bureau central a déjà semé un pareil imbroglio au centre de santé de Kieshi et Lusangai. Trop c'est trop. Même si au Maniema, nous avons réussi à faire de la politique une vulgarité de la rue. Faut-il abroger les documents d'un gouverneur par une simple recommandation de la DPS? Ah, Bandoukou, quelle jungle! Et pourquoi la zone de santé de Samba demeure la cible de la politique, évitant que ce conflit ne constitue pas une bombe à explosion tardive dans les chefs de notre population? Nous exigeons au bureau central d'annuler Ab Irato sa mésaventure et sollicitons l'implication personnelle du gouverneur des provinces, car l'administration c'est la continuité.
Contacter le médecin chef des zones dit reconnaître l'existence de la crise mais rejette les affirmations de la société civile. Selon lui, la population quitte l'hôpital pour se faire soigner par les charlatans. Et puis, le bureau de l'OMS vole au secours du gouvernement provincial de la Tchopo. Il a remis le week-end près de 4 tonnes de médicaments en appui à la lutte contre l'épidémie de choléra. Celle-ci sévit depuis le mois de mars dernier dans plusieurs zones de santé de cette entité. À ces jours, environ 500 cas sont enregistrés, dont 44 décès. Jacques Mukonkole.
L'épidémie de choléra a été déclarée officiellement depuis le 8 avril dernier par le gouverneur de province dans les zones de santé de Lowa, Wanyarukula, Yakusu et Kisangani. Elle s'est étendue malheureusement dans d'autres entités comme Basoko et Opala depuis la semaine dernière. En vue de lutter contre cette épidémie, l'OMS a remis aux autorités provinciales 3,3 tonnes de médicaments pour cette fin. Ce don constitué des kits appropriés servira à renforcer la prise en charge curative des cas de choléra dans les zones affectés, a déclaré le docteur Viko Kowengbia Willibar, chef de bureau de l'OMS Kisangani. Selon des sources médicales, le cumul des cas à ce jour fait état de près de 500, dont 494 décès, soit une létalité de 9%. Signalons par ailleurs que le plan de riposte élaboré par le service technique du ministère de la Santé comprend également des actions de sensibilisation en vue de la prévention, l'hygiène et l'assainissement. L'objectif poursuivi est d'arriver à réduire la létalité ainsi que la maîtrise rapide de la flambée des cas de cette épidémie meurtrière. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Par ailleurs, au Kasaï central, les pensionnaires de la prison centrale de Kananga ont bénéficié des matelas et des lampadaires, une initiative du gouvernement provincial à travers le ministère de la Justice et Droits Humains. Le souci, selon le ministre provincial de la Justice, améliorer les conditions de vie des détenus et condamnés se trouvant dans cette maison carcérale. Alain Lukusa, dans cet extrait choisi par François Kadima.
La prison n'est pas un mouroir, elle est plutôt un centre de rééducation pour qu'à la sortie du pensionnaire que vous êtes, votre comportement change positivement. C'est ainsi que sur demande de la directrice, moi, Maître Alain Lukusa, ministre provincial de la Justice, ainsi qu'avec notre gouvernement provincial, avons décidé de remettre 100 matelas et 20 lampadaires pour deux objectifs. Premièrement, vous aider à bien passer nuit et deuxièmement, permettre aux surveillants qui font la ronde la nuit de voir clairement là où ils posent leurs pieds.
Ce geste est salué par la directrice de la prison centrale de Kananga, Thérèse Mputu, qui indique que c'est une réponse à son plaidoyer fait au gouvernement provincial. Les travaux de vulgarisation de la politique nationale de prévention et règlement des conflits communautaires et coutumiers ont débuté hier à Bounia, chef-lieu de l'Ituri. C'est dans le cadre d'un atelier de 3 jours organisé par le gouvernement provincial avec l'appui de la section des affaires civiles de la MONUSCO, atelier qui va se pencher sur l'analyse des causes des conflits coutumiers qui endeuillent l'Ituri depuis plusieurs décennies. Le gouverneur des provinces intérimaires encourage l'examen minutieux de ces documents qui contient des orientations sur la résolution des conflits coutumiers et la restauration de l'autorité de l'État. Abounia, Ezekiel Mouzalia.
Ce document énumère une série d'analyses et causes des conflits coutumiers et communautaires qui constituent un blocage aux efforts de cohabitation pacifique entre les communautés en Ituri. Il s'agit entre autres des conflits de succession, des limites, des pouvoirs ainsi que d'appartenance qui empêchent le vivre ensemble et suscitent des violences. Kassimi Bamba, représentant du chef des bureaux de la MONUSCO, souhaite que l'examen de ces documents puisse contribuer à la restauration de l'autorité de l'État.
Ces efforts permettront l'acceptation mutuelle entre les communautés voisines. Ce chantier demeure notre cheval de bataille en vue de l'extension et du renforcement de l'autorité de l'État, la relance des activités socio-économiques dans les zones affectées par les violences.
Pour sa part, le gouverneur des provinces intérimaires salue la volonté constante de la MONUSCO d'appuyer les initiatives de paix et de cohésion sociale au niveau de la base. Le général Raius Tchaloué.
Nos chefs coutumiers sont les symboles de l'unité communautaire. Un État qui exclut les autorités coutumières de la gouvernance locale se prive des leviers puissants de cohésion sociale.
Environ 100 participants prennent part à ces séminaires, notamment les membres du bureau de l'Assemblée provinciale et des agents du ministère de l'Intérieur venus de Kinshasa. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Actualité internationale.
La capitale du Darfour du Sud, Niala, est dans le viseur de l'armée soudanaise qui se prépare à la reprendre afin de desserrer l'étau autour de El Fachir. Sous le contrôle des paramilitaires des forces de soutien rapide depuis octobre 2023, la deuxième ville la plus peuplée au Soudan après Khartoum, située au carrefour des échanges commerciaux avec la Centrafrique et le Soudan du Sud, est devenue la principale source d'armement des FSR. Elle est en passe d'être la base de leur gouvernement parallèle, ce que l'armée cherche à éviter face au risque de partition du Soudan.
L'invité.
Nous recevons Mgr Donatien Chollet, il est secrétaire général de la CENCO et chapelain du pape François. Dans cet entretien accordé à Radio Okapi, Mgr Chollet revient sur le décès de sa sainteté le pape, de l'organisation des obsèques de celui-ci ainsi que de la procédure pour sa succession. Mgr Donatien Chollet s'entretient avec Michel Kifindangoy.
Mgr Donatien Chollet, bonjour.
Bonjour Michel.
Comment avez-vous accueilli la nouvelle du décès de sa sainteté le pape François?
C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai appris la nouvelle du décès du pape François, d'autant plus que hier, nous l'avons tous suivi difficilement, mais il est parvenu à souhaiter à chacun de nous heureuse fête de Pâques. Et en plus, nous avons reçu sa bénédiction Urbi et Orbi, et voilà, ce matin tombe la triste nouvelle. C'est vraiment regrettable.
Vous êtes le chapelain du souverain pontife qui vient de nous quitter. Comment l'Église organise-t-elle les funérailles et la transition de la gouvernance jusqu'à l'installation prochaine du nouveau pape élu?
Le funérailles d'un pape dans l'Église, c'est d'abord un événement spirituel. La première chose à faire, c'est intensifier les prières pour le repos de son âme et puis préparer les obsèques conformément au testament du pape défunt. En ce qui concerne le pape François, nous venons d'apprendre que dans son testament, il a voulu qu'il soit enterré dans la basilique Marie Majeure, où il allait toujours au début et à la fin de chaque voyage. Mais quant à l'administration de l'Église, il est prévu que le cardinal Camerling de la curie pontificale fasse l'intérim, mais sans pouvoir prendre des décisions importantes. Cela en attendant que le conclave des évêques se réunisse pour déterminer, par exemple, le jour, etc. Généralement, c'est à moins d'une semaine qu'on enterre le pape.
Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour la désignation du nouveau pape? Est-ce que l'Afrique en général et la RDC en particulier pourraient se compter parmi les probables successeurs?
En ce qui concerne la succession, je crois que il faut laisser à l'esprit qui guide l'Église de faire son travail. En ce qui nous concerne, comme chrétiens, comme prêtres, nous devons intensifier nos prières pour que le prochain pape soit un pasteur selon le cœur de Dieu, quelles que soient ses origines. Donc, on n'est pas en politique, on réfléchirait en termes de quotas, de rotations, etc. L'Église est universelle, c'est l'unité dans la diversité, et l'Afrique a aussi une grande place dans cette diversité. Et comme vous le savez, sa voix compte aussi.
Comme vous le savez, le pape François s'est personnellement investi dans la restauration de la paix en RDC. Pouvons-nous espérer voir le combat du pape se poursuivre jusqu'à la restauration effective de la paix en RDC?
Michel, vous êtes témoin du fait que en chaque circonstance difficile de notre pays, le pape François s'est manifesté toujours. Il manifestait sa proximité par la prière, par les encouragements, et s'est beaucoup investi pour la paix en RDC lors de sa dernière visite en 2023. Le besoin de retrouver la paix en RDC a été exprimé de plusieurs façons. Et le pape a toujours accompagné les évêques de la RDC dans tous les processus de paix dans lesquels se sont impliqués. Le Saint-Père a toujours apporté son appui. Vous vous souviendrez que lors de sa dernière visite, en s'adressant aux évêques, il leur a présenté le modèle du cardinal Monsengo et de Monseigneur Muziriwa. C'est tout dire. Il est parti, mais les évêques restent encouragés par ce grand pasteur et certainement cette mission sera poursuivie pour le bien-être de brebis confiées à nos pères spirituels.
Monseigneur Donatien Chollet, je vous remercie.
Merci.
Et c'est la fin de ce journal mis en onde par Billy Landry Betou et supervisé par Pélé Kipela Mondo. Merci pour votre attention.